RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Et on est reparti, on rechausse les pédales, on remonte sur les vélos pour une petite heure d'after pour débriefer cette belle étape entre Amiens et Rouen. Et de 100, Tadej Pogacar s'est imposé aujourd'hui et remporté sa 100e victoire professionnelle et sa 18e étape sur le Tour de France. Une étape marquée par une lutte intense entre les favoris du Tour, mais aussi Mathieu Van Der Poel qui s'est fait souffler la victoire par le Slovène. Toute l'équipe de l'After Tour est autour de la table. On retrouve Jérôme Coppel. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tous.
Jérôme Pinault, bonsoir Jérôme.
Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à toutes et à tous.
Maria Azé, bonsoir Maria.
Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir tout le monde.
Vous avez eu le temps de récupérer, de reprendre vos esprits. Je pense à Jérôme Pinault qui a eu une journée animée sur la moto, il faut le dire quand même.
Hein. Ouais, je suis un peu dans le dur là. Fatigante la journée.
Ça allait vite, hein?
Ouais, très vite.
Il a fait un peu d'huile hein, dans le final à Rouen là. On le sentait pas serein. Ouais.
Lui, il pensait que c'était les frites qui. En fait, non, c'est bien la moto.
Ouais, il n'y avait pas de frites aujourd'hui.
Non, c'est fini.
On a quitté le Nord, là,
Normandie.
C'est le beurre,
et le camembert.
Les crêpes, les camemberts.
Ouais, c'est ça.
Mais pas trop de frites dans le final à Rouen.
Allez, on revit cette étape mouvementée avec le résumé du jour. Jean-Marc, lui, comme il a Jérôme Pinault derrière lui dans les descentes, il n'a pas besoin d'avoir des bidons en plomb, hein, je peux te dire.
Non, là, dans les descentes, ça doit aller très vite. Hein, ouais. Avec GG derrière, ça doit aller un peu plus vite qu'avec Maria. Hein, voilà, d'ailleurs, il faut faire gaffe que la moto cabre pas si GG se met un peu trop sur l'arrière.
C'est le grand favori quand on voit tout ce qu'il a pu faire depuis le début de la saison et surtout le Dauphiné, comme il a pu le dominer, même si Vildegarde a travaillé. C'est difficile de rattraper le temps perdu.
Et Eleni Martinez qui va franchir dans quelques secondes le sommet de cette côte de Belleboeuf et empocher les deux points pour le classement à points important pour Eleni Martinez, pour le maillot à poids.
Quand Narvaez va s'écarter, normalement Tadej Pogacar devrait attaquer.
C'est parti pour Tadej Pogacar, attaque de Tadej Pogacar, suivi par Jonas Vingegaard, par Mathieu Van Der Poel.
Le sprint va bientôt se lancer, on rappelle, plutôt faux plat descendant, le sprint ça va aller très vite.
Et c'est parti pour Mathieu Van Der Poel, c'est parti Mathieu Van Der Poel, le maillot jaune qui lance ce sprint, Tadej Pogacar dans sa roue, Jonas Vingegaard juste derrière et l'accélération de Tadej Pogacar à la lutte avec Mathieu Van Der Poel, victoire de Tadej Pogacar, 18e victoire de Tadej Pogacar sur une étape de Tour de France. 100e victoire de sa carrière, Pierre-Yves, il l'avait dit, il voulait gagner sa 100e victoire sur le Tour de France, et ben c'est fait.
Victoire de Tadej Pogacar. Tiens, ben Maria, je te redonne la parole. On va reprendre nos esprits en regardant les classements. Classement de l'étape, tout d'abord. On remet un petit peu d'ordre dans tout ça.
Tu veux que je hurle comme on en entend?
Tu peux, remarque, vas-y.
Classement général, classement de l'étape, hein, pour commencer. Tadej Pogacar, donc, en tête, suivi de très près, mais ça n'a pas suffi, par Mathieu Van Der Poel, qui conserve le maillot jaune. Jonas Vingegaard, le Danois, troisième, premier français. Romain Grégoire, qui termine à la 5e place, une très belle place pour Romain Grégoire. Remco Evenepoel 7e et Kevin Vauclin qui conserve le maillot blanc 10e.
À deux Français donc dans le top 10 qui nous donne au classement général. Pas de changement pour le maillot jaune, hein.
Non,
ça aurait pu.
Ça aurait pu.
Un peu.
Ouais, ils sont dans les mêmes temps, Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel, mais c'est Mathieu Van Der Poel qui garde ce maillot jaune parce que sur les classements des étapes d'avant, il était mieux classé, Mathieu Van Der Poel.
Cumule
des
places, exactement.
Et Jonas Vingegaard, 3e, premier français. Kevin Vauclin, 5e du général.
C'est le premier mini-débat de cet after. Pogacar, Vingegaard, match nul ou victoire de Pogacar, selon vous? Jérôme Coppel.
Alors pour moi, victoire de Pogacar, déjà parce qu'il a gagné l'étape et parce qu'il a quand même réussi à sortir Vingegaard de la roue dans la dernière difficulté, même si ça, il n'a pas su faire la différence et finir en solitaire. C'est quand même un petit ascendant psychologique. Surtout, voilà, il gagne l'étape, il monte encore à Vingegaard, qu'il est un tout petit cran au-dessus, même si c'est avantage Pogacar, mais un petit avantage parce que Vingegaard m'a même fait très forte impression aujourd'hui, m'a même agréablement surpris le Danois.
Jérôme Pinault, toi tu n'avais pas les images. On sent à un moment qu'il est à la rupture, qu'il regarde derrière, qu'il lâche, t'as revu les images. Et puis finalement il revient. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que sur son terrain, Pogacar n'a pas distancé Vingegaard qui n'est pas sur le sien. Au sprint, il est plus vite et il fait devant, mais une place devant. Ça veut surtout dire que le Danois, il est prêt à répondre aux attaques. Et par rapport au Dauphiné, il se serait rassis beaucoup plus tôt dans la forme du Dauphiné. Là, on a vu Pogacar a eu du mal à basculer. En fait, ils se sont rassis à 20 mètres d'écart, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le Danois a su revenir avant le sommet. Donc, je me dis, évidemment, avantage Pogacar, je suis d'accord avec Gégé, mais quasiment un match nul psychologique, quoi. C'est-à-dire que il a quand même démontré à Tadej qu'il allait falloir qu'il aille encore une fois, mais il le sait, aller dans ses réserves et aller chercher son maximum pour le distancer.
Ça te conforte dans ta théorie du Vingegaard?
Pour l'instant, ma théorie tient le coup. Voilà. Il est bien mieux qu'il ne l'était au Dauphiné. Il va progresser et bon, attendons la première étape de montagne. J'aurais peut-être tort sur toute la ligne à la première étape de montagne, mais pour le moment, le Danois me fait bonne impression en tout cas.
On réécoute Tadej Pogacar après cette victoire, cette 100e victoire professionnelle, sa 18e sur le Tour. Et Maria, eh bien, tu vas pouvoir nous traduire le Slovène. Alors c'est en anglais, pas en slovène.
Out there, you seem to be at the limit, no?
Vous semblez être à la limite.
I think today, I hope everybody was at the limit.
Ouais, je pense que tout le monde était à la limite aujourd'hui. J'ai tenté d'attaquer sur la dernière montée.
Jonas followed me and
Jonas m'a suivi.
And everything came together.
Et tout le monde s'est regroupé au final.
And he did
Joao Almeida a fait un super travail pour me déposer jusqu'à la ligne.
So I'm super super happy and proud.
Je suis très heureux et fier de l'équipe aujourd'hui.
Yeah, I'm just without words. It was such a nice victory.
C'était une très très belle victoire.
100.
C'est la 100e
victoire in your career
and you do it on the Tour de France. En carrière et vous le faites sur le Tour de France. Quel symbole!
At the Tour is incredible.
Gagner sur le Tour, jersey, c'est incroyable. Avec ce maillot. Et avoir 100 victoires, c'est exceptionnel.
Kind of cycling so exciting that you love going up, going down. Pacey, exciting, with a lot of rivals. This is just
vous aimez courir comme so ça, des montées, des descentes avec tous ces incroyables coureurs. Ouais, avec tous ces adversaires, c'est énorme. Tu ne sais pas ce qui va se passer avant la fin. Comme aujourd'hui, tu as cette adrénaline tout le long. C'est du pur cyclisme et j'adore ça. Vous n'êtes pas en jaune encore, mais les jambes semblent être là. On verra demain sur le contre-la-montre. Ce sera un test. Mais déjà gagner une étape avec ce maillot, c'est suffisant. Et je profite de cette course, même si on court pour le maillot jaune, mais on verra bien.
Non, pas trop vite. Hein. On parlera de demain tout à l'heure. Un autre enseignement, il le signale, messieurs, c'est Joao Almeida. Les capitaines de route sont là, parce qu'on a vu Jorgensen également en pleine forme. On sent que ce sont deux équipes qui sont tout à fait prêtes, Jérôme.
Mais de nouveau, là, si tu demandais qui a pris l'ascendant en termes de premier lieutenant ou même collectivement, ben il y a encore une fois peut-être match nul, parce qu'on a vu UAE prendre la barre pour placer Tadej Pogacar en bonne position pour lui permettre d'attaquer dans la dernière difficulté. Après, ça a été Visma Lisebak avec Kampenaerts qui a fait un boulot incroyable. Et dans le final, Vingegaard avait Matteo Jorgensen et Tadej Pogacar avait Joao Almeida. Joao Almeida, par contre, il doit être très, 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 très fort.
Parce qu'il est
parce
toujours
qu'il
mal placé.
Était hein. Il était sacrément mal placé. Ah, donc lui, il a dû doubler du monde pour arriver là dans le final et être capable de rouler vraiment encore dans les 2-3 derniers kilomètres. Parce que c'est vraiment lui, après, qui essaye de contenir un peu toutes les tentatives d'échapper. On a vu Remco essayer, Jorgensen deux fois, à deux reprises, et c'est toujours lui qui a été le chercher, qui a fait l'effort. Donc il marche très très bien, le Portugais. On le sait, hein, si UAE l'a pris sur ce Tour de France, il était déjà là l'année dernière, il avait déjà fait des numéros. Si le staff d'UAE l'ont repris cette année, c'est vraiment parce qu'ils savent qu'il a encore passé un cap. C'est pas Ayuso. Collectivement, il va faire le boulot. Ouais. Même si on l'a déjà dit avec GG, il en garde toujours quand même un petit peu pour pas péter complètement. Là, il a roulé, place. Il prend pas de cassure hein, à l'arrivée, donc il va quand même faire place. Mais depuis le début de saison, on sent aussi que Joao Almeida a passé un cap. Hein. Il a quand même gagné 3 courses d'une semaine World Tour, donc il a vraiment passé un sacré palier. Et ça, c'est un bel avantage pour Pogacar.
Ok, mais lui, il vient pas du ski, comment il peut être aussi mauvais au niveau du placement?
Bah après, il y en a, tu peux venir du vélo très jeune et avoir peur de frotter ou juste pas être très habile sur ton vélo. Hein.
C'est fou
pas
quand non même. Plus
parce que,
lui, il a ce déficit-là de placement. C'est, habilement, techniquement, il descend bien, il a les bonnes trajectoires, il fait des bons chronos. Donc, dans les chronos, il y a aussi des trajectoires à prendre. Il a un bon pilotage, mais le placement est un vrai problème pour lui. D'autant plus qu'aujourd'hui, sur le final, on l'a vu, il était placé. Il est placé jusqu'au moment où Visma Lisebike met un coup de vis, revient, les déborde, et là il panique un peu. J'ai l'impression
quand ça frotte
et que ça va un peu vite, il perd souvent la route de ses coéquipiers. Par contre, attention sur la forme de Joao Almeida. Attention à demain. Demain, c'est un vrai, vrai protagoniste pour la gagne. Parce que Remco Evenepoel, a priori, fait des grandes annonces et nous dit que les 58 secondes, il peut aller les chercher.
On va en parler, oui.
Mais Joao Almeida est un vrai client pour demain. Ça va très, très vite, Almeida, en chrono.
Et demain, il aura une importance aussi grande que ce qu'il a eu aujourd'hui et que ce qu'il aura dans les étapes de montagne.
Ils n'ont pas le droit d'être roulés ensemble.
Ils n'ont pas le droit de rouler ensemble. C'est pas un duo normand, puisqu'on est en Normandie, c'est pas le duo normand. Mais par contre, il va donner des super temps intermédiaires à Tadej Pogacar.
Ouais, sauf que s'il est meilleur sur les temps intermédiaires, je ne suis pas sûr qu'on lui donne les temps intermédiaires.
Voilà, on dira t'es bien, Tadej, t'es bien, t'es pas mal, continue, remets-en un peu, baisse une dent, mais ça sera tout.
On ment quand même dans les contre-la-montre, beaucoup.
Dans le vélo, c'est rare. Mais alors, dans les
c'est rare, mais dans le contre-la-montre, ouais, un peu.
Ouais. Non, mais peut-être que Tadej veut avoir les vraies infos. Par exemple, personnellement, c'était mon cas. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il me fallait absolument les bonnes informations.
On t'a menti aussi, Jérôme, oui. Tu sais.
Mais, tiens, on va voir ce qu'en pense Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE, au sujet de cette lutte avec Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.
Ben, au moment donné, il a lâché, mais il a vu que la fin de la montée n'était pas loin, donc il a insisté, il a pu revenir. C'était bien courageux, donc ça va être joli les prochains jours. Parce que de toute façon, une étape comme aujourd'hui, on savait que ça aurait été une étape difficile, une étape qu'il faut rester devant, parce qu'il n'y a que les bons devant. Donc, et vu qu'on est là, Tadej, comme tout le monde, hein, donc, il aime gagner, il a mis là-dessus, il attendait la 100e victoire, il voulait la faire ici autour. Et là.
Voilà, la centième. Mauro, il dit c'est joli, on s'amuse, tout va bien, on va avoir des belles journées derrière. Je pense qu'il est quand même très satisfait de voir son coureur l'emporter ici. Et rassuré. Bon, parce qu'il peut toujours y avoir quelques doutes.
Rassuré, je ne sais pas s'il avait besoin d'être rassuré, parce que depuis le début du tour, il n'a pas fait de faute, Tadej Pogacar. Mais j'aimerais bien être dans la peau de Tadej Pogacar. Je me dis, non, au Dauphiné, je ne vais pas aller la gagner, je n'ai pas envie de gagner ma centième au Dauphiné. J'attends le tour.
Mais
j'attends
mieux pour une belle étape. Pour le coup.
Ouais, bien sûr, bah, tant mieux pour Lenny, c'est clair. Mais j'attends une belle victoire avec mon beau maillot de champion du monde pour prendre ma 100e victoire. Dire que nous, GG, à nous deux, on attend toujours notre 10e victoire cumulée. On a encore un peu de marge, on devrait s'y remettre.
C'est ça. Non, mais je crois que du côté du AE, pour avoir discuté ce matin avec Mauro, il y a de la sérénité. Il est très vigilant. Ils sont évidemment très concentrés sur la victoire du Tour de France. Mais. À aucun moment dans la discussion ce matin, même si on n'a pas tout abordé et je rentre pas dans les secrets de l'équipe, à aucun moment j'ai senti inquiet face à l'adversité. En gros, le plan, c'est si Tadej est au niveau et qu'il lui arrive rien, peut pas nous arriver grand chose. Et ça se ressent aussi dans le management. Ce matin, moi, et clairement, il m'a dit cette étape peut lui convenir, on prendra pas tous les risques. Bon, le meilleur moyen de ne pas prendre de risques aujourd'hui, c'est faire quoi ? C'est faire ce qu'ils ont fait. Mais c'est de visser, de mettre tout le monde en ligne. On a vu qu'ils ont fait et s'écarter quelques outsiders de ce Tour de France. Et puis surtout, ils ont bien fait comprendre à tout le monde que lorsqu'ils allaient visser, ça peut aller très très vite. Donc ça a calmé certaines velléités d'attaque dans le final. Et puis ça a permis à Tadej de ne prendre aucun risque dans le final, d'en faire prendre ses adversaires, et notamment à Visma, hein, qui a. Vingegaard a aussi beaucoup progressé là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il est calé dans la roue, il ne prend pas 2 mètres dans un seul virage. C'est un bon descendeur, on le sait. Il a quand même eu 2 grosses chutes avec traumatisme, mais aujourd'hui, il est allé tambour battant dans les descentes sans freiner.
Mais tu parles de la sérénité chez UAE, mais je retrouve la même chez Visma. Je les trouve vraiment très sereins. Jonas Vingegaard aussi, ses coéquipiers font un boulot incroyable.
On a juste un problème chez Visma, c'est on n'a pas Van Aert encore.
Ouais, là, il est revenu un petit peu, mais ça va,
surprenant c'est pas quand du même. Grand Van Aert. C'est pas le Van Aert qu'on a vu.
Si c'est le Van Aert d'il y a 2 ou 3 ans au Club Blanet, etc., aujourd'hui, dans le final, potentiellement, il gagne l'étape. Ouais. Donc, il est bien en deçà de ce qu'on peut espérer, parce que même pour mettre Jonas Vingegaard dans les meilleures conditions et mettre un grand coup de vis dans la côte de Bon Secours ou dans la dernière montée, normalement Van Aert à ce niveau-là, jusqu'au pif-paf gauche-droite, il met tout le monde en ligne, il s'écarte, au pire il s'écarte, mais il est là, là il n'était plus là.
Il a l'image de sa saison, Van Aert.
Il est que l'ombre de lui-même pour
tout
le moment.
Tout à fait, alors c'est un petit peu anecdotique, mais c'est un cap quand même, 100e victoire pour Tadej Pogacar, 100e victoire professionnelle. Maria, sa place où le garçon par rapport à l'histoire du cyclisme?
Alors ça le place 24e au classement des victoires en carrière. Voilà, il est à égalité.
Il y a que 23 coureurs qui ont fait plus de victoires en carrière que lui.
C'est quoi
le plus de victoires, Maria?
Le plus de victoires en carrière, je l'ai pas.
Eddy Merckx,
ouais,
certainement.
Oui.
Très certainement. Ouais. Je crois que c'est 256, si je me trompe pas.
De toute façon, quand on cherche celui qui a fait le mieux, on dit Eddy Merckx.
Bien sûr, ça c'est
le mot de passe.
Ouais, là, on donne 100e victoire. Maria a donné la place, mais Tadej Pogacar a que 26 ans. Il aura 27 ans au mois de septembre. Il n'est pas sprinter. Mark Cavendish a énormément de victoires, par exemple. Mais les sprinters, ils ont un peu plus d'occasions, donc il va encore en ramasser un petit paquet.
C'est 279.
De toute façon, si on veut parler de Tadej Pogacar et parler de record, la ligne
c'est
Eddy Merckx. Il n'y a personne d'autre que Eddy Merckx qui pourrait empêcher Tadej Pogacar de battre des records. C'est dire si Tadej Pogacar est un phénomène, c'est un monstre, c'est un immense champion, et ça, je pense qu'il faut le respecter.
C'est ce que nous disait tout à l'heure Bernard Hinault, qui était dans ce studio.
Mais j'étais tout à fait d'accord avec Bernard quand il est intervenu. Il fait partie de leur caste. On sent déjà que Bernard parle de Tadej Pogacar comme de quelqu'un de leur clan. Alors il en exclut certains, il y a certains dont il ne parle plus, mais en tout cas il parle de Tadej comme un très grand, un immense champion. On l'a entendu parler d'Eddy Merckx, quand le ton et l'intonation dans sa voix quand il parle d'Eddy Merckx, il a le même quand il parle de Tadej Pogacar.
Après,
c'est des coureurs pas comme les autres. Il nous disait souvent ça en interview. Lui, il était un coureur pas comme les autres. On en parlait avec lui. Tadej Pogacar, pour le coureur, pas comme les autres.
Les très grands champions ne sont pas comme les autres. De toute façon, moi, après, j'ai plus. J'aime pas trop ces lignes statistiques, notamment sur le nombre de victoires, Eddy Merckx, etc. Parce que c'est pas la même époque. À l'époque d'Eddy Merckx, le cyclisme était beaucoup moins international que maintenant. Il y avait pas cette ultra spécialisation dans les classiques.
Il y avait pas de Slovène.
Par exemple. Mais il y avait pas de spécialistes des classiques flandriennes, des classiques ardennaises, des courses par étapes d'une semaine, des courses de trois semaines, etc. Là, Pogacar, il fait tout ça dans un cyclisme ultra international, où il est justement, par exemple, sur les Flandriennes, face à un Mathieu Van Der Poel qui est un ultra spécialiste de ces courses-là. Je trouve les performances peut-être pas meilleures, mais aussi bonnes qu'à l'époque d'Eddy Merckx. Oui, en nombre de victoires, il n'ira certainement jamais le battre, mais je le place déjà quasiment au plus haut qu'Eddy Merckx.
Ok, donc t'aimes pas qu'on compare. Ben, on va quand même continuer parce qu'on a d'autres chiffres à te donner. Tu nous excuseras, mais c'est important.
Pas de problème, hein, mais je vous excuse.
C'est sa 18e victoire sur une étape du Tour de France. Il est 8e au classement des vainqueurs d'étapes sur le Tour. Il repasse devant le Français Jean Alavoine, qui avait 17 victoires, comme Tadej Pogacar. À la base, il est juste derrière François Faber, qui était mort pendant la Première Guerre mondiale, 19 fois vainqueur d'étapes sur le Tour de France.
Et c'est le 6e Tour de France d'affilée, avec au moins une victoire pour Tadej Pogacar. Il n'y a pas grand monde qui a fait aussi bien. Et André Leduc, Bernard Hinault, Walter Gottfried, Nicolas Franz, André Greipel et
Marc Cavendish.
Le copain de Laurent Bien.
Eddy Merckx,
voilà.
Oui, voilà.
Pas Marc Cavendish.
Mais le vainqueur de France, celui qui a gagné le plus d'étapes sur le Tour de France, pour le coup, c'est Marc Cavendish.
Il a battu le record l'an dernier.
Ouais. Et dans cette série de 100, on a juste, parce qu'il est, tout seul, meilleur dans le peloton, et on a juste derrière Arnaud Démare, 97, Primoz Roglic, 91, Dylan Groenewegen, 77, et Remco Evenepoel à 63.
Ouais, Arnaud qui est bloqué à 99,
il aura du mal peut-être.
Ah, il a encore dans les jambes une victoire, mais à ce niveau-là, par contre, non.
Ouais, ça va être compliqué d'atteindre le cap des 100 victoires pour Arnaud. Pas impossible. Après, on rappelle de nouveau qu'il est malheureusement dans l'équipe Arkea BNB Hotel qui est en difficulté au niveau du sponsor. Est-ce que si l'équipe d'Emmanuel Hubert, le manager d'Arkea BNB Hotel, s'arrête, est-ce qu'Arnaud Démare retrouvera un contrat chez les pros? Ça, c'est aussi des questions qui peuvent se poser.
L'avenir nous le dire. En tout cas, on croise les doigts pour Emmanuel, pour qui son équipe, sa belle équipe qui mérite d'exister et qui a son rôle à jouer dans le monde international, dans le monde du cyclisme international. On espère que ça va continuer.
J'aimerais qu'on parle de Remco Evenepoel dans quelques instants. On parlera aussi des Français, savoir s'ils ont raté ou pas leur journée. Remco, savoir s'il peut prendre le maillot jaune demain. On en débat dans quelques instants. Puis on évoquera évidemment ce contre-la-montre de demain. Entre quand et quand le chrono, quand demain, on en reparle French. Dans quelques instants.
RMC, 19h-20h, l'After Tour, Pierre-Yves Leroux.
On n'a pas réussi à séparer nos consultants, Jérôme Coppel, Jérôme Pinault, sur le duel Pogacar-Vingegaard. Pour vous, c'est un petit peu un match nul aujourd'hui. On va voir si il n'y a pas un perdant quand même dans l'affaire. Est-ce que Remco Evenepoel, qui perd un petit peu de temps aujourd'hui, vous semble un peu en deçà?
Il confirme
qu'il est un peu en dessous.
Pour moi, il conforte son potentiel troisième place sur le tour, parce que il est pas du tout dans la même case que les deux.
Il est à sa place.
Dès que les deux accélèrent, il les regarde de loin. Alors il a une bonne vue, donc il les voit. Il est rentré encore aujourd'hui sur le final. Il a essayé de ressortir, mais on sent que lorsque la bataille va faire rage dans les massifs montagneux, voire semi-montagneux ou montagneux intermédiaires, déjà au Puy-de-Sancy, Remco n'est pas dans le game, dans le jeu avec ces deux-là, avec les deux ténors. En revanche, il est le troisième, parce que on a Almeida qui risque de devoir sacrifier pour Pogacar et Jorgensen. Ces deux adversaires, Jérôme, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, ce sont des équipiers, des grands favoris, parce que derrière, c'est le gouffre, il n'y a plus personne.
Ouais. Alors, je rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoignent là, que Tadej Pogacar l'a emporté devant Mathieu Van Der Poel et Jonas Vingegaard sur cette étape à Rouen, et que Evenepoel donc termine septième à 3 secondes, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a un garçon qui est devant, Oscar Honnelet, quand même.
Ouais, qui marche très bien, hein, Oscar Honnelet.
Est-ce que c'est pas lui le troisième, finalement, à l'arrivée?
Il y a un chrono, et il reste encore quasiment 3 semaines à faire.
Sur donc, les références de 3 semaines.
Voilà, ouais. Oscar Honnelet, il doit encore prouver des choses sur les courses de 3 semaines. Remco Evenepoel l'a déjà fait, il a gagné une Vuelta, il a déjà fait un podium au Tour de France. Pour moi, il est à sa place. Hein, comme disait Jérôme, il joue pas avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Il l'avait dit même avant le Tour. Hein, moi, je viens là pour la 3e place, donc il sait très bien qu'il est pas encore au niveau des deux cadors devant. Aujourd'hui, l'étape était, le profil, les difficultés n'étaient pas du tout pour lui. Lui, il monte les difficultés, les cols comme un chrono. Donc, il va même pas chercher à suivre en Pogacar ou Vingegaard d'attaque. Lui, il se met à son rythme comme s'il était sur un chrono, et il gère sa puissance et il reste au seuil sur la durée de la montée. Il a vraiment pas cette giclette pour les suivre. Il essaye même pas pour ne pas se mettre dans le rouge.
Sauf que l'an dernier, Gégé, rappelle-toi, sur l'étape des chemins, il avait mis le premier la cacahuète avec un punch à l'époque qui était quand même retentissant, c'est-à-dire qu'il avait quand même cette giclette. Il l'a plus cette année.
Oui, mais la course sur les chemins blancs avait été usante tout le long, donc il met la cacahuète au bout d'un moment où la course a été très usante. Là, elle a été un peu usante, mais il y a vraiment eu le gros coup de pétard. Il y a vraiment eu le gros coup de pétard dans les derniers kilomètres de l'étape, mais même si il peut utiliser ses qualités de rouleur dans un col, etc., il arrivera quand même pas à jouer avec Pogacar et Vingegaard.
Alors vous allez l'entendre, il est en tout cas très très ambitieux par rapport à la journée de demain, le contre-la-montre. Maria, au classement général, notre ami Evenepoel, il a quand même un petit peu de retard, il a perdu 3 secondes encore aujourd'hui.
Ouais, il est 9e, il a 58 secondes de retard, c'est énorme. Le chrono fait 30 km demain, c'est...
Semble-t-il, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Evenepoel.
J'ai hâte d'être demain, en fait. C'est clair que les jambes sont là, donc j'espère que j'aurai les mêmes jambes demain. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup à faire demain. Oui, il y a moyen de reprendre les 58 du coup, je pense. C'est complètement plat. On a vu l'avantage que j'ai pris sur Tadej dans le chrono de Dauphiné. C'était quand même un chrono complètement différent, mais demain, c'est quelque chose qui me convient très bien. C'est très plat, pas technique du tout, donc... je vais pousser le maximum possible, le plus fort possible, et j'espère que ça sera assez pour peut-être aller chercher le maillot jaune.
Il est ambitieux, notre ami Jérôme Pinot, Remco Evenepoel. Il dit 58 secondes, je peux aller les chercher.
Je le rejoins dans sa théorie, sur la côté théorique des choses. C'est 33 bornes, c'est à plat, c'est pour lui. C'est pas les chronos préférés de Tadej Pogacar, ni de ceux de Jonas Vingegaard. Quoique, on peut y ajouter un Joao Almeida. Après, comme le disait Jérôme tout à l'heure en préparant cette émission, parce qu'on travaille énormément dès qu'on reçoit le conducteur de cette émission, parfois un peu tard, donc on a peu de temps pour travailler. Il n'y a pas énormément de spécialistes au départ du chrono. On en a perdu deux très gros depuis le premier jour. Stéphane Bisseger est à la maison, Philippe Ogana est à la maison. Donc, pour Van Der Poel, pour Evenepoel, l'idée de pouvoir gagner 58 secondes sur Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard en ayant en souvenir ce qui s'est passé au Dauphiné, c'est pas fou. Maintenant, quand on voit l'état de forme aujourd'hui et depuis le début du tour des deux autres, je pense que c'est un peu utopique.
Il fait référence au Dauphiné. Maria, qu'est-ce qui s'est passé justement au Dauphiné dans ce chrono?
Alors, Tadej Pogacar perd 49 secondes sur Remco Evenepoel sur le Dauphiné. Jonas Vingegaard à 21 secondes de Remco Evenepoel. Donc, il y a 28 secondes entre Vingegaard et Pogacar. Et voilà, Remco Evenepoel qui a quand même pris 49 secondes sur Pogacar. Donc, c'est faisable. Mais il avait dit...
C'est impossible.
C'est impossible.
Jérôme,
c'est
ton impossible. Avis. Jérôme Coppel, pour toi, c'est impossible.
C'est impossible. Alors, Remco Evenepoel, par contre, c'est le meilleur rouleur du monde. Bon, là, pour moi, il n'y a pas match, même si Philippe Ogana, qui malheureusement ne sera pas là, est très très fort. Le meilleur rouleur du monde, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Remco Evenepoel. Mais reprendre 58 secondes à Jonas Vingegaard et à Tadej Pogacar sur un chrono de 33 km, même si c'est tout plat, Tadej Pogacar au Dauphiné, il était, je pense, dans un très mauvais jour. On l'a vu dans la première bosse du chrono au Dauphiné boire, alors que le chrono durait 20 minutes. Des fois, pour des chronos de 20 minutes, on prend même pas de bidon, donc lui il buvait déjà. Il était vraiment dans un jour sans, Tadej Pogacar, et il perd 48 secondes. Le Dauphiné, c'est pas le Tour de France. Pour les uns et pour les autres, on voit bien, on vient de parler de Jonas Vingegaard, c'est pas le même qu'au Dauphiné. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard vont être encore plus forts demain qu'ils ne l'étaient au Dauphiné. 58 secondes, vous vous rendez compte la différence de vitesse qu'il faut rouler? T'es pas un professionnel en train de courir avec des cadets.
C'est 2 secondes au kilomètre.
C'est 2 secondes au kilomètre. Même si c'est tout plat, faut reprendre à des mecs comme Pogacar et Vingegaard qui sont loin d'être manchots en chrono, faut leur reprendre 2 secondes au kilomètre.
Il
va gagner l'étape, mais il va pas reprendre 58 secondes.
Pour toi, Tadej Pogacar s'était planté ce jour-là, c'était une erreur et ça se reproduira pas.
Pour moi, j'ai du mal à le voir jouer la victoire sur le chrono. Tadej Pogacar, même s'il a déjà gagné des chronos sur le Tour de France, je le vois pas gagner demain, mais il sera pas dans le même état qu'il était au Dauphiné, même si le chrono le profil de chrono cancan lui convient beaucoup moins. Je le vois pas perdre autant de temps. Ça c'est clair.
Ce qui est dommage pour Remco Evenepoel, on en avait parlé dans sa conférence de presse avant le départ du Tour de France, c'est qu'il disait le chrono servira à gagner le plus de temps possible sur Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar pour garder le maillot jaune le plus longtemps possible. Là, il arrive avec 58 secondes de retard. Au final, il va même pas, si ça se trouve, réussir à combler cet écart. Oui. C'est pas du tout ce qui était prévu de base.
Non, il perd un maillot jaune en plus sur cette bordure de la première étape. Il perd potentiellement un maillot jaune.
Il a perdu le potentiel avantage qu'il pouvait prendre demain, le premier jour, sur un coup de bordure et sur un coup d'inattention. Donc oui, c'est dommage, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même.
Y a un autre garçon, alors lui on ne le mettait pas dans la victoire finale, qui est actuellement en jaune. Si Remco Evenepoel gagne le maillot jaune, ça veut dire qu'il est plus sur les épaules de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, tiens, au Dauphiné, il est combien?
Il est à 1 minute 02 de Remco Evenepoel, à 13 secondes de Tadej Pogacar. Il n'est pas ridicule, Mathieu Van Der Poel.
Je ne sais pas s'il reprend le même pari qu'au chronos. Dauphiné. Ils avaient parié au Dauphiné que Remco lui mettrait moins d'une minute. Même 1-0-2. Ouais.
Est-ce que la surprise ne peut pas venir de là aussi, éventuellement?
De Mathieu Van Der Poel? Alors, s'il a envie, il peut faire un très bon chrono, Mathieu Van Der Poel. Bien sûr qu'il aura envie, il a le maillot jaune sur le dos. Mais rappelez-vous, quand il a gagné à Mur de Bretagne et qu'il avait le maillot jaune, il avait déjà fait un très très bon chrono après. Donc, il est capable maintenant sur ce chrono-là, 33 kilomètres, je pense, Remco Evenepoel n'ira pas piquer le maillot jaune à Mathieu Van Der Poel. Si Mathieu Van Der Poel perd son maillot jaune, ça sera
c'est
pas pour Remco Evenepoel.
C'est pour Vingegaard ou pour Pogacar.
Je mettrais bien une petite pièce sur Vingegaard en jaune demain soir, personnellement.
On fera les paris.
Mais Mathieu Van Der Poel, on en a déjà parlé, je pense qu'il monte sur son vélo de chrono uniquement sur les courses où il y a un chrono. Je pense qu'il n'en fait pas du tout le reste de l'année. C'est dommage parce qu'il a des qualités.
On va l'écouter, mais surtout sur l'arrivée du jour où on est quasiment persuadé qu'il va s'imposer. Et puis finalement, il coince un petit peu à la fin. Il va nous expliquer ça. On a cru, nous, en direct, à un petit souci mécanique.
Comme quoi, vous n'êtes pas très vigilant en direct.
Ben oui, écoute, voilà, on s'est trompé sur ce coup-là. Et on écoute Mathieu Van Der Poel.
Parce que ouais, tout le monde a vu que Tadej était le plus fort de nouveau aujourd'hui. Donc j'ai essayé, j'ai lancé mon sprint, mais les jambes, il n'y avait plus rien dans les jambes pour le battre. Ouais, je pense le Tour c'est un grand succès pour moi jusqu'à maintenant et je suis heureux aussi de garder le maillot jaune demain à la contre-la-montre. Ça me fait un peu penser, il y a 4 ans j'ai aussi fait contre-la-montre en jaune, donc c'est un beau souvenir.
Voilà, il répond quand même un petit peu à la question.
Il répond, et il y a 4 ans, quand il est maillot jaune au départ du chrono, c'est ce jour-là Tadej Pogacar qui gagne le chrono, et Mathieu Van Der Poel fait 5e, à 30 secondes de Tadej Pogacar, sur un chrono qui est en direction de Laval de 27 km. Il y a quand même des similitudes, mais il avait quand même perdu 30 secondes sur Tadej Pogacar.
Sur
27 km, mais il avait fait 5e du chrono, comme quoi il a des aptitudes. Quand tu fais du cyclocross, que tu fais une heure à fond, c'est du seuil, normalement, en chrono, t'as quand même un petit peu de talent, t'as un petit peu de prédisposition.
Alors demain, ce qui va pas être à son avantage, c'est que le parcours n'est pas du tout technique. Si Mathieu, on lui met 2-3 épingles et des virages à 90, à virer sans toucher au frein, il gagne du temps sur ses adversaires. Là, demain, ce sera pas le cas.
Et je pense aussi que Mathieu Van Der Poel, ce qui est intéressant, c'est les étapes qui suivent. Parce que même si des fois il le perd d'un rien, il peut très bien le reprendre dans les deux étapes suivantes.
Exactement, c'est pour ça qu'il doit le faire à fond. Il doit absolument le faire à fond parce qu'il y aura encore beaucoup d'étapes vers Vire, vers Mur de Bretagne où il pourrait s'imposer, prendre des bonifications et éventuellement récupérer son maillot jaune. Donc bien sûr que Mathieu Van Der Poel va faire le chrono à bloc. Il sera en plus surmotivé. On sait que le maillot jaune, ça te donne un petit peu des ailes. Donc voilà, il va vraiment être dans le coup pour le top 10, pas dans le coup pour la victoire au chrono, mais il sera là.
Oui, il va arrêter dans le jeu.
Je ne savais pas si tu avais encore quelque chose à dire, parce que tu rigoles beaucoup, mais j'ai l'impression que...
Il va rester dans le jeu, et ce qui est important, comme tu l'as dit, Pierre-Yves, c'est qu'il va rester dans le jeu, dans des étapes qui vont lui convenir, donc il n'est pas impossible. Et je pense que demain, ça va être son supplément de motivation, c'est-à-dire qu'il va être obligé de faire un super chrono en se disant, je peux récupérer le maillot jaune dans un jour ou deux. Donc ça va le maintenir dans la motivation extrême, ultime, pour aller chercher les petites secondes, les petits centièmes à ne pas perdre. Donc on peut avoir un très très beau chrono de Mathieu Van Der Poel, et quand il sera, et s'il est, et il le sera, on n'a pas à en douter, complètement impliqué, comme le dit Gégé, il peut nous surprendre et faire top 10, top 5 de ce chrono.
C'est ses 10 premiers jours, c'est pour lui, de toute façon. Après, ce sera terminé, donc autant qu'il en profite et qu'il se donne à fond. Mathieu Van Der Poel, je pense que c'est ce qu'il a dans la tête.
Bien sûr, et il va partir dernier, donc il aura les temps intermédiaires de tout le monde, vraiment de tout le monde. Donc il va vite voir s'il est dans le jeu pour ne pas terminer trop loin pour éventuellement récupérer son maillot jaune plus tard.
Oh, puis il est un petit peu français, Mathieu Van Der Poel. Donc
ça vous arrange bien,
c'est notre meilleur français. Les Français, on va en parler justement dans un instant. La journée a peut-être été un petit peu moins bonne que pour Mathieu Van Der Poel aujourd'hui pour les Français. Il n'est pas d'accord. Mais on va en discuter dans un instant. Allez, on fait une petite pause. Retour de l'after dans quelques instants.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Ah, ça y est, les enfants là commencent à être agités. On sent que la récré va bientôt sonner. Ouais. Il reste encore une petite ligne droite. On se concentre. Les GG au carré.
C'est le reste de la troupe, c'est les enfants, les jeunes. Tu sais, ils sont un peu tout fous.
Tient,
tu sais, c'est l'heure de la récré.
On les tient.
Oui, c'est la sortie
de l'école. Dissiper ces jeunes.
Dis l'ancienne.
Si vous vous inquiétez parce que vous n'avez pas vu Christophe Cessieux aujourd'hui,
on n'est pas inquiet.
Il va revenir. Ne pensez pas qu'il est parti du côté du parc Astérix, parce que vous savez que dans l'intégral Tour, cette semaine, nous offrons des entrées pour le parc Astérix, pour profiter des 50 attractions et spectacles, et pour remporter aujourd'hui 4 entrées adultes pour le parc Astérix, et peut-être croiser Christophe Cessieux. Et bien vous envoyez PARC, P-A-R-C, au 732-16, PARC, P-A-R-C. RC au 7-32-16.
Voilà, c'est très
Jules,
bien.
La marque de vêtements engagée et accessible, partenaire officiel du Tour de France 2025, vous gâte sur RMC. Jules, et en plus, vous êtes beau.
Ah, il me parle.
Non, je crois que c'est pour moi.
Ça fait une belle transition, Pierre-Yves, j'ai adoré.
Bon, alors
il
les Français.
Il semble en revanche avoir aperçu Christophe cet après-midi.
Ah.
Ouais, en obélix sur un toit de camping-car.
Ah, c'était donc.
Mais il y avait
peut-être
pas d'oreiller sous le pantalon, si vous voyez ce que je veux dire.
Allez, on se concentre puisqu'on parle des Français et pas de Christophe Cessieux. Romain Grégoire, cinquième de l'étape. Alors moi, le débat il est simple. Hein. Est-ce que la journée des Français est ratée ou pas? Parce qu'on en a parlé des Français, mais on les a vus un peu devant. Pour quelle raison? On se demande un peu, pour aller chercher deux points pour le Grand Prix de la Montagne, pour Aligny Martinez. Derrière aussi, avec des soucis mais pour Alaphilippe, par exemple.
Péter les plombs à 19h42, là. Vous êtes en train de péter les plombs.
Mais attends, on n'a pas répondu.
Tu t'en bats. Ils commencent, on les a vus un petit peu dans le final, on les a vus toute la journée.
Bah, au final, on les a vus plutôt derrière, pour le coup.
On a vu Lenny Martinez.
Ok, Romain Grégoire, cinquième. Bah Lenny Martinez,
pas dans le
devant.
Jeu la gagne.
Kevin Vauquelin, cinquième du classement général du Tour de France.
Mais
maillot blanc.
Mais qui est
demain
piégé
avec
aujourd'hui.
Un chrono.
Mais qui est piégé aujourd'hui. On piégé parle aujourd'hui, Jérôme, on parle pas de
il
demain.
Il est à 10 secondes, mais il prend pas 25 minutes aujourd'hui.
Non, mais il a montré ses limites, quand même. Sur un terrain qui est à sa
On n'allait pas lui demander de gagner le Tour de France.
Est-ce qu'on n'est pas à un plafond de verre, là,
non,
un peu pour les Français?
On espérait qu'il gagne l'étape, GG. Non, on aurait pu se dire, un grand Kevin Vauquelin peut nous faire un numéro.
Contre Pogacar, Van Der Poel et Vingegaard, on y croyait.
Bien sûr que si, on pouvait y croire. Parce qu'à un moment donné, quand tu es sur ton terrain et que tu as un coureur qui est en grande forme comme ça, l'autre jour sur Boulogne.
Attention, ça n'a pas couru de la même manière à
donc
Boulogne qu'ici.
On en vient.
Ça ne veut pas dire qu'il passe au travers.
On en vient un peu à cette conclusion. Enfin, en tout cas, j'en viens, parce qu'on n'est pas d'accord sur le sujet. C'est un cran au-dessus aujourd'hui en termes d'intensité.
Bien sûr.
Et on craque. C'est un peu moins bien. Et on n'est pas là-haut. Mais on le sait. On n'a pas d'équivalent de Vingegaard ou de Pogacar. Si on a pu, à un moment donné, l'espérer, on sait maintenant où est le niveau de nos Français, c'est-à-dire, dès que les gouttes s'expliquent, on compte les puntos.
Non, mais ça, on le savait. On le savait. Que quand Vingegaard et Pogacar allaient se mettre des cacahuètes, même dans les montées courtes très raides comme aujourd'hui, qu'ils n'allaient pas pouvoir suivre nos Français à la pédale pure. Mais par contre, suivant les circonstances de course, on a vu à Boulogne, ici, ils n'ont pas pris d'éclat. Romain Grégoire fait 5e, Kevin Vauquelin perd 10 secondes, il fait 10e.
Oui, mais l'année dernière, ils n'ont pas explosé. L'année dernière, Kevin Vauquelin, il gagne, il lève les bras.
Oui, mais il était échappé.
Mais c'est les circonstances de course aussi.
Bien sûr, justement, donc ça revient à ce que je dis. Ils peuvent encore gagner des étapes. C'est de loin pas perdu. Ça dépend du scénario de course. Aujourd'hui, si Pogacar décide pas d'attaquer dans la bosse, qui vous dit que Romain Grégoire ou Kevin Vauquelin gagnent pas?
C'est là où je voulais en venir.
Ils ont fait une mauvaise étape aujourd'hui.
Toi, le connaisseur, tu as très bien vu et pu constater que lors de la dernière ascension, lorsque ça met en route, on peut pas dire ça accélère, c'est les gouttes. Au moment où ça accélère, même avant que ça accélère, ils sont pas en position tous les deux de jouer quelque chose.
La question, c'est est-ce que les Français vous ont déçu aujourd'hui? T'as dit, on s'attendait à ça. Donc,
ils ont raté leur journée.
Ils n'ont pas raté leur journée, ils n'ont pas déçu. Ils sont à leur place et ils sont dans le haut du classement.
La satisfaction, c'est Lenny Martinez aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait
alors,
aujourd'hui.
C'est Lenny Martinez, c'est Romain Grégoire et c'est Kevin Vauquelin.
On va aller dans l'ordre.
Je suis désolé.
On va aller dans l'ordre. On va commencer par Romain Grégoire et écouter la réaction de Marc Madiot, son manager, par rapport à cette cinquième place.
Ah bah oui, surtout quand on voit les trois premiers. On voulait faire sur lui, qu'il soit dans le final pour la gagne de l'étape, il y est, donc nous on est satisfaits. Ah demain on va regarder les grands à l'écran de télé.
Voilà. On va regarder les grands à l'écran de télé. Donc
il n'a pas de spécialiste du chrono dans son équipe.
Hein. Oui, non mais même pour aujourd'hui, il dit voilà, il est cinquième, regardez qui y avait devant. Voilà. Il y a une marche.
On aurait pu espérer avoir par exemple un Romain Grégoire ou un Kevin Vauquelin suivre l'attaque de Tadej Pogacar. Ça aurait pu.
Oui, bien sûr, c'est là que moi je l'attendais. C'est-à-dire que Romain l'a fait par le passé. Kevin a attaqué dimanche dans les talus à Boulogne avec Pogacar et Vingegaard. On aurait pu penser qu'il serait à ce niveau-là. Moi j'ai été surtout surpris, pour être très sincère. Je suis plus déçu. Mais pas déçu du garçon, c'est dur aujourd'hui, il est peut-être un peu moins bien. Mais je m'attendais à mieux de Kevin Vauquelin.
Tiens, on l'écoute justement. Kevin Vauquelin, peut-être qu'il y a des raisons aussi dans le placement.
Sûrement.
Injouable, je sais pas. Comme j'ai dit, j'ai pas vu trop ce qui s'était passé à l'avant. J'ai juste vu dans la bosse, j'étais pas le mieux placé. Malheureusement, je me suis fait déborder. Donc ça m'a. Voilà, je sais, on est contre les plus grands champions du monde actuel. Voilà, c'est le Tour de France. Donc avoir deux vélos de retard, c'est beaucoup trop. Et voilà, c'est les claques que j'ai pris en haut. Et tout simplement, c'est parce qu'il m'a pas permis d'être dans le groupe maillot jaune.
Donc deux vélos de retard.
Conclusion. Si Kevin Vauclin est chez UAE ou chez Visma Lease Bike, en haut, il est avec eux.
Exactement. Mais à Boulogne, il fait une superbe étape, mais il est déjà très mal placé.
Il est tout seul.
Et vu que le scénario de course s'est passé comme il s'est passé, que Pogacar n'a pas attaqué, etc., ça s'est regroupé, ça lui a permis de repasser. Si, mais là, dans un scénario comme aujourd'hui, impossible.
Le placement est primordial.
Bien sûr.
En revanche, si, comme la rumeur se confirme, il a signé chez Ineos Grenadiers.
Ah bah il est mal placé aussi.
Il sera pas non plus parce que cette équipe là elle est quand même catastrophique.
Fantomatique depuis
ils sont pas sur le tour.
J'ai aperçu Geraint Thomas
pourtant ils ont deux équipes, mais ça change rien.
Et on pouvait attendre Axel Lawrence aujourd'hui.
Ouais non, Axel il est pas dans le jeu là, il est pas à son niveau, parce que un Axel Lawrence à son prime aujourd'hui,
il est là.
Il est pas avec les deux. Mais il est là derrière dans ce groupe-là.
Il est avec Vauclin, il est avec.
On l'a vu faire des grands numéros à ce niveau-là. Donc non, il est pas bien. Mais on n'a pas la recette chez Ineos. On n'arrive pas. Depuis un moment, l'équipe Ineos est l'ombre d'elle-même. Rappelez-vous, c'est l'équipe Sky. Incroyable. On a présenté cette équipe avec ses marginal gains, avec tous ces détails qu'ils avaient, la potion magique. Et d'un coup, patatras, le druide est de retour, puisque Brailsford est de nouveau sur le tour. On voit bien que la seule présence de Brailsford, c'est en train de faire comme à l'OGC Nice et à Manchester United, c'est flop.
Mais la seule solution, ça va être de recruter. De toute façon, on parle de Remco Evenepoel chez Ineos, on parle de Kevin Vauclin aussi. Est-ce que leur solution, c'est pas finalement d'aller chercher les grands coureurs ailleurs?
Oui, bien sûr, parce qu'ils ont pas. Ils vont renouveler l'effectif, c'est sûr.
Ils n'ont plus, de grands coureurs, mais Geraint Thomas, excusez-moi, quand il a gagné le tour, il n'est pas présenté comme un goat, le sont les autres. Ils ont su fabriquer des champions à une époque, ils ont su façonner, ils ont fait gagner le tour à Bradley Wiggins, qui était quand même un pistard. Ils l'ont affûté, ils l'ont fait gagner des courses. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette méthode-là, n'est plus présente.
Alors, on sait.
Ils ont même gagné au Mont Ventoux en marchant à pied qu'un coureur a pris.
On s'est éloigné un peu, mais l'Angleterre n'est pas très très loin. On parlait des Français, mais c'était tellement frappant de ne pas voir Ineos. L'autre Français, il y en a encore deux dont il faut qu'on parle. Tu nous rappelles, Maria, le scénario de cette étape? C'est un Lenny Martinez qui décide de partir à l'abordage.
Ouais, tout au début de l'étape, tu as dû le voir, Jérôme, sur ta moto, Lenny Martinez qui part tout seul et qui est rejoint par trois coureurs. Ils ont fait cette échappée pendant un petit moment quand même. Puis Lenny Martinez alors tente ce premier point pour le maillot à poids. Finalement, c'est Casper Asgreen qui le remporte. Et derrière, Lenny Martinez récupère quand même deux points de la montagne. Et il continue tout seul. On s'est dit qu'il allait se relever, mais non, comme Tim Wellens hier, lui, il continue. Et voilà, il récupère ce maillot de combatif du jour. Une belle satisfaction pour Lenny Martinez.
Avant de savoir si c'est une belle satisfaction ou pas et de débattre avec nos deux Jérômes, on l'écoute à l'arrivée, Lenny Martinez au micro de nos reporters.
C'était un peu pour aussi s'amuser, essayer de prendre des points. Je pense qu'il y avait, je sais même pas combien il y avait de points au sommet, mais je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est toujours ça de prix. Et à mon avis, si je retourne dans les échappées, au moins j'aurais déjà quelques points dans la poche. La première étape, c'était très difficile. La deuxième, c'était mieux. Et la troisième, mais là, c'est de mieux en mieux. Ça devient crescendo. Donc je pense que j'avais besoin de quelques jours de course pour un peu redémarrer la machine.
Il y a l'étape en tête, justement, maintenant, qu'on a un peu avancé. C'est quoi le.
J'avais pensé à Mur de Bretagne, mais avec les mecs général, je pense que ça va être un peu chaud. Mais après l'étape de Mont d'Or, peut-être, je pense que ça peut convenir à une échappée. Enfin, on verra, ça dépend. C'est aussi le peloton qui va décider. Il faut qu'il y ait aussi une grosse échappée avec des gros mecs forts dedans. Donc, faut voir.
Jérôme Pinault, apparemment, Lenny Martinez est parti avec son baluchon au début de l'étape. Mais il a pas regardé le roadbook.
Secoue-toi, remets-toi dedans, fais quelque chose, Lenny, mais reviens, quoi. Il est où? Il est là, sur le Tour de France. Il nous dit qu'il lui fallait 2-3 jours de course pour se mettre dedans. Et là, il sait pas combien il y a de points au sommet du grimpeur, alors qu'à la conférence de presse, il dit, il faut une étape et un maillot à poids. Mais c'est un touriste. Il est où là? Il est le professionnel. Quand tu viens sur le Tour de France, tu connais les étapes de montagne. Il nous dit le mur de Bretagne, ouais, mais avec les mecs du. Ah, parce que tu pensais qu'au bout de 8 jours, au bout de 5 jours, Mathieu Van Der Poel, Pogacar et Vingegaard, ils seraient plus dans le jeu. Mais tu vas où, Lenny? Enfin, le garçon a besoin d'être encadré. D'être encadré, parce que là, c'est la bérésina, le comportement qu'il a et ses déclarations. C'est juste pas possible et pas entendable pour des passionnés comme nous. Enfin, même que tu as cette jeunesse, cette insouciance, on le présente un peu comme un peu dans la lune. Mais tu n'arrives pas sur la plus grande course du monde quand t'as pris une patate par an minimum dans une équipe en te disant, je sais pas combien il y a de points, on se met dans la troisième et dans la quatrième catégorie.
Surtout
c'est
quand
pas
on
entendable.
Voit à côté un Tim Wellens qui va juste chercher son petit point, tout est calculé dans bien cette sûr. Équipe. C'est assez étonnant, Jérôme. Je sais que tu veux défendre les Français sans cesse, tu veux défendre Lenny Martinez, mais là, il est assez indéfendable sur cette décla. Quand même.
Bah, sur la décla, il est indéfendable, mais j'y crois même pas en fait à sa décla. J'ai du mal à me dire que tu es sur le Tour de France, t'es échappé, même si il savait pas au départ qu'une côte de quatrième catégorie, ça t'apporte un point, troisième catégorie, deux points. Il a des directeurs sportifs dans la voiture qui sont derrière lui, qui doivent lui dire, ok, bah là, si tu es en premier, t'auras un point, là, t'auras deux points. Ça me paraît quand même un peu gros, là. La maison paraît un peu grosse.
Attends,
quand
on parle
même
dans l'oreillette, notre producteur nous dit, attention, j'ai pas fait de montage du son, hein.
Non,
c'est bien la vérité.
C'est ce qu'il a dit. Mais il dit des conneries.
Il y a des choses.
Par contre, je te coupe rapidement. Parce que sur mur de Bretagne, il parle en échappé.
Mais jamais de la vie. C'est que tu connais rien en vélo, que tu penses qu'un mur de Bretagne a échappé. Mathieu Van Der Poel va
bien sûr que c'est pas une étape pour baroudeur. Bien sûr que
jamais ça n'est
pas une étape pour baroudeur. Donc là-dessus, il est indéfendable.
Et puis GG, il est pur grimpeur. Ça veut dire quand même qu'il est quand même pas sûr de ses canettes et qu'il se dit, je vais essayer aussi dans les étapes intermédiaires. À la limite, ça, c'est à plus de 106, je veux bien l'entendre.
Ouais,
pas à Mur de Bretagne. S'il s'échappe à Mur de Bretagne, il va forcément avoir un puncher avec lui. Et c'est pas l'assurance touriste.
Ouais.
Il y a autre chose, une dernière chose qui ne trompe pas. Ce matin, j'étais, puisque j'ai eu la chance de faire l'étape sur la moto au paddock, il est comme un chien errant. Je le sens seul. Il n'est pas avec ses collègues.
Pas cadré.
Il n'est pas souriant.
C'est le problème d'une équipe étrangère. Il n'a pas l'air très heureux,
Lenny. Ouais. Et je pense que quand on est conseiller d'un garçon comme lui, d'un jeune garçon comme lui, il faut encore une fois, on en reviendra sur un débat plus tard certainement, sur le conseiller, l'agent, le manager. Il ne faut pas juste voir l'oseille. Il faut voir le plan de carrière et l'environnement d'une équipe avant de mettre son courant.
Peut-être qu'on lui avait dit tu vas dans le Bahrein et qu'il n'avait pas compris que c'était Bahrein en fait.
Je pense qu'il a juste lu la ligne en bas.
On plaisante, on l'adore. On n'a pas le temps, Jérôme.
Juste rapidement, sportivement, il n'a pas fait un mauvais choix. Il a gagné.
Il veut se rassurer, il a gagné deux points.
Il a gagné au Dauphiné, il gagne en Romandie, il gagne à Paris-Nice. Il fait une très belle saison.
Il reste chez Groupama.
On va en reparler de toute façon dans les jours qui viennent, c'est certain. Il nous reste juste une petite minute pour un petit mot sur le chrono. Demain, à quoi il ressemble ce chrono?
Cancan, c'est français, c'est chez nous. Le chrono, 33 km, on en a déjà un petit peu parlé, mais tout plat, bien sûr favorable à Remco Evenepoel. C'est un chrono qui va être très rapide. Hein. On annonce pour faire les 33 km un temps autour des 37 minutes pour l'itinéraire horaire le plus rapide. On aura trois chronos intermédiaires, nous, pour voir un petit peu où se situent les favoris. Voilà, vraiment un chrono qui est sur mesure pour Remco Evenepoel. GG, tu disais pas trop technique, c'est pas très très technique, il y a quand même deux virages à 90 degrés. Il y a quelques enfilades de rond-point. Bien sûr, les favoris ont repéré ce chrono. Il n'y a pas de problème. Mais techniquement, il y a quelques secondes à gagner à droite, à gauche.
Alors, juste en un mot, il nous reste 30 secondes. Favoris pour demain?
Remco Evenepoel.
Super.
Jérôme Coppel sur la moto. Ton favori?
Jérôme Coppel, son favori.
Vingegaard.
Ah ouais.
C'est pas mal, c'est pas bête. Faut aller chercher quand même
des choses originales. Dans quelques instants, merci beaucoup, messieurs, dames. On se retrouve demain avec Christophe Cessieux, l'After Live avec Nico Jamin et un match de la Coupe du Monde des clubs Fluminense contre Chelsea pour ceux qui sont passionnés de foot. À bientôt, on se retrouve demain, évidemment. Reposez-vous bien et bonne émission.
RMC, l'After Tour.